jugement. Car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-ci sera un onagre d'homme, un onagre, un âne sauvage, un sauvage, sa main contre tous, la main de tous contre lui. Il s'établira à la face de tous ses frères. C'est vraiment un faire-part d'annonciation en bonne et due forme. D'abord, le fait qui est noté, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, puis le nom, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, de Jésus, etc., d'Ismaël, puis explication du nom, car le Seigneur a entendu, Yishma, ta détresse, et puis l'avenir de l'enfant. Il sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de tous ses frères. Au fond, ce que Agar désirait, c'est-à-dire de devenir à son tour maîtresse, le jeu de mots aussi, hein, elle est maîtresse d'Abraham, et d'avoir une importance, et l'importance qui est donnée à une mère, c'est sa progéniture, des enfants. Mais donc c'est vraiment, et ce schéma, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, vous allez le retrouver chaque fois qu'une annonce est faite à une femme ou pour une femme. La femme enfante un fils. L'homme doit enfanter, doit engendrer plutôt la parole. Et les annonces de prophètes vont être reprises sur le même schéma. Et ça, c'est la parole. Et Marie va donner justement naissance, va enfanter la parole. Les deux vont se trouver en un dans le Nouveau Testament. Et donc la phrase est tout à fait le stéréotype, on voit bien, c'est un stéréotype qui vient de plus tard, bien entendu. Donc tu es enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu sa détresse, donc on explique le nom. Il sera sauvage, ce sera un sauvage, ce sera un nomade, et Ismaël va devenir le père des nomades, c'est-à-dire des Arabes, Ismaël, Isaac et Ismaël. Ils sont toujours devant le même problème, hein, en Israël précisément. Celui-là sera un onagre d'homme, un homme libre, un homme sauvage, un homme de la nature, un homme violent aussi. Sa main contre tous, la main de tous contre lui. Un pour tous, tous pour un, ça nous fait penser à D'Artagnan. Sa main contre tous, la main de tous contre lui. C'est un homme, un batailleur. Et on voit derrière cet Ismaël, hein, on voit tout le peuple arabe, le peuple de la steppe. Il s'établira à la face de tous ses frères. Donc ce sont les nomades qui s'établissent chaque fois face aux sédentaires et qui posent une question aux sédentaires. Parce que les Arabes sont beaucoup plus, les Arabes, c'est-à-dire les nomades, hein, au départ, sont beaucoup plus libres que les gens qui sont asservis, hein, à une civilisation. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nomades ne veulent pas entrer dans un système de ville pour montrer leur indépendance. Bien sûr, ils vivent d'une façon plus pauvre, à la merci des intempéries, mais ils sont libres. On a agre d'homme. Homme, hein, comme un âne sauvage. Il s'établira à la face de tous ses frères. Voilà que Agar devient, hein, dans cette promesse, quelqu'un d'important. Au Seigneur qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. Très étrange. Quand Abraham reçoit la visite du Seigneur, il construit un autel. un jalon sur la route. Ici, Agar, une femme à qui Dieu a parlé, elle parle. Elle ne construit pas un hôtel. Mais
elle aurait difficile puisqu'elle est enceinte.
Elle donne un ordre. Ah oui, mais l'hôtel, c'est... L'hôtel, il est en elle. Et alors, elle dit ceci, c'est la seule qui donne vraiment un nom à Dieu. Généralement, c'est Dieu qui révèle son nom. Ici, elle donne un nom à Dieu. Tu es El Roi. El, Dieu, Roi, le voyant en moi, qui m'a vu, le Dieu qui m'a vu, le Dieu qui me voit, ou le Dieu de ma vision, le Dieu que je vois, le Dieu qui me voit. On peut le dire dans un sens ou dans l'autre. Tu es El Roi. Car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit. Parole curieuse. On peut traduire également, oui, moi je préfère cette traduction que emploient généralement les juifs, l'achai roi, au Dieu, au vivant, chai veut dire le vivant, au vivant qui m'a vu, à celui qui me donne la vie et qui m'a vu, qui m'a regardé, qui m'a prise en considération. Alors vous entendrez, hein, Yishmael, Dieu m'a entendu et Dieu m'a vu. Une femme qui a tout ce qu'il faut pour être prophétesse. Entendre et voir. Yishma, Dieu m'a vu, Dieu m'a entendu, Dieu m'a vu. Dieu est El Roi, car dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit, ou après le vivant qui me voit. Au fond, c'est cette vision de Dieu qui détermine mon existence. C'est face à lui que j'existe. C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Achai Roy, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Tout ça, évidemment, c'est pour vous donner l'étymologie d'un nom, hein, une étiologie, comme on dit. On raconte une chose. Mais c'est important de voir comment on le raconte. Hein, il faut qu'on raconte une histoire pour dire pourquoi un puits s'appelle la Chayron. C'est curieux ce puits, hein? On n'en a pas parlé. Agar donna ce nom, tu es El Roy, car dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit. C'est pourquoi on a appelé ce puits.
Et c'est un puits qui existe vraiment ou pas?
Probablement. Probablement qu'à l'époque il a existé. Que ça s'est transmis. Pourquoi ce puits s'appelle-t-il la Chayroïe? Là, on va vous raconter l'histoire d'Agar. Et pour vous dire le nom, pour vous expliquer le nom. Mais pourquoi un puits? Le puits, c'est ce qui donne la vie, hein, dans le désert. Donc c'est l'eau. Agar enfanta un fils à Abraham. Regardez comme c'est écrit. Et Abraham, tiens, donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. C'est elle qui devait donner le nom, non? Et c'est lui qui le donne. Donc il est en quelque sorte d'accord avec elle. Abraham donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël.
Mais Jean dit quand même pas qu'Abraham se dit le père de l'enfant, bien non, qu'il donne le nom.
Non. Il donne le nom. Hein, mais donner le nom, c'est... c'est le reconnaître, hein. Il le reconnaît comme son fils. Du sang.
Mais c'est pas dit, hein.
Il donne le nom. Ah non, le texte n'est pas dit, mais le texte le dit en disant il donne le nom.
Il y a une distance.
Oui. C'est, la distance est que le nom a d'abord été donné par l'ange. Tu es enceinte, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Mais ce nom est pris en charge, est adopté, disons aussi cela, est adopté par Abraham. Donc Abraham le reconnaît quand même pour son fils. On voit un dénouement. 15-16, donc l'intervention divine et la reconnaissance de cette intervention divine par Agar. Mais ça, c'est la solution humaine. Et la solution humaine, bah, elle vaut ce qu'elle vaut, et il y a des tas de solutions humaines qui sont prises dans le monde. Ce ne sont pas toujours les meilleures, ce n'est pas toujours la solution divine. Enfin voilà, le monde est fait souvent de solutions humaines. On ne va pas toujours consulter Dieu. Et vous voyez, de nouveau, Dieu assume une situation. Les enfants, Dieu est dans cette heure. Il prend en charge cette solution humaine. Il ne peut pas faire autrement. Et il l'accepte. Mais l'accepter, c'est prendre la responsabilité. Hein. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, ah voilà, nous arrivons, Abraham lui apparut. Oui, le Seigneur lui a parlé. Et lui dit, je suis El Shaddai. C'est lui qui donne son nom. Généralement, c'est comme ça que ça se fait.
El Shaddai, c'est pardon. Un nouveau nom, ça, pour Dieu.
Ah, c'est un nouveau nom, exactement. El Shaddai, que l'on traduit généralement par Dieu très haut, ou Dieu tout puissant, que certains préfèrent traduire Dieu des montagnes, le Dieu des hauteurs, Dieu des mamelons, exactement. Shaddai, littéralement, ce sont mes saints. Mes saints. Shad, c'est le saint de la femme. Shaddai, hein, le haï veut dire de moi. Dieu de mes saints. Alors là, l'étymologie n'est pas sûre. Certains disent, mais voyez, les mamelons des montagnes, hein, les montagnes apparaissent comme des saints, comme des mamelons, les pointes des montagnes. Et certains disent, bon, c'est de là que ça vient, vraisemblablement, d'où les montagnes, Dieu, d'où le nom, le Seigneur des montagnes ou le montagnard. Certains préfèrent, dans la tradition juive, dire Dieu de mes saints, c'est-à-dire le Dieu de ma vie, le Dieu qui me fait vivre. Je suis El Shaddai, Dieu Shaddai. Et ce Shaddai va être repris dans le livre de Job, notamment. Donc ce n'est pas nécessairement le Seigneur Yahvé, c'est-à-dire le Dieu unique. C'est de nouveau un terme qui est généralement donné par des païens, comme El Elyon, hein, le Dieu très haut. Nous l'avons vu à propos de Melchizedek. Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. Il faut déjà atteindre 99 ans pour ça. Hein? Vous voyez que ça nous donne encore du champ. C'est pas fini. Marche en ma présence et sois parfait. Soyez parfait comme notre Père Céleste est parfait. On entend ça. J'établis mon alliance, mais il l'a déjà fait, non? Mais il l'a refait, bientôt. Les gens qui disent théorie des documents, voilà deux documents différents, on a mis les deux documents l'un après l'autre. Mais c'est pas pour rien qu'on les a mis l'un après l'autre. Car il s'est passé quelque chose entre les deux. Entre 15 et 17, il y a le chapitre 16. C'est-à-dire la solution humaine qui a été prise. Ici, maintenant, Dieu va donner son point de vue sur la chose. Marche en ma présence et sois parfait. J'établis mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. Vous voyez que Dieu a des bénédictions en série. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Dieu. Alors, les théoriciens des documents vous diront, ah voilà, nous sommes dans un autre document, on va travailler au ciseau et au pot de colle. Abraham tombe à la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. tu deviendras père d'une multitude de peuples. Autrement dit, c'est moi qui donne la fécondité. Il y a une fécondité humaine et il y a une fécondité divine. Et ça nous permet de réfléchir aussi sur ce qu'est la véritable fécondité. Est-ce que la véritable fécondité, c'est d'avoir des enfants et de donner des enfants? Ou est-ce que la fécondité peut avoir un sens aussi plus large? Une multitude de peuples. On ne t'appellera plus Abraham. Abraham qui veut dire le grand sheik, hein, le sheik élevé, Av, le père, Ram, grand, élevé. Mais ton nom sera Avraham, père de multitude, père de beaucoup. De nouveau, on explique le nom. Initialement, c'est vrai, probablement que Avram et Abraham, il n'y a pas beaucoup de différence, sinon le même mot dans un dialecte différent. Mais le texte veut donner un sens profond, hein, en reprenant l'étymologie. C'est pour ça que j'ai mis promesse, nouvelle identité. Changer le nom de quelqu'un, c'est lui donner une nouvelle identité. Bon. Avram, tu es le grand cheikh de ta nation, de ton clan. Bon, ça va bien. Donc c'est très local. Mais ton nom sera Avraham. Le nom est universalisé en quelque sorte. Père de multitude, père de beaucoup. Et on explique, toujours le nom. Car je te fais père d'une multitude de peuples. Je viens de le répéter. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. C'est extraordinaire. Il vient de choisir une solution et Dieu semble ne pas l'agréer tout à fait. Enfin si, il l'a assumé, mais il ne l'agrée pas tout à fait parce qu'il en remet Dieu. J'instituerai, il se répète, mon alliance entre moi et toi et ta race après toi de génération en génération. Autrement dit, voilà une alliance qui va courir à travers les siècles. Une alliance perpétuelle. Nous retrouvons l'alliance de Noé. Alliance de Noé qui était, hein, il n'y aura plus jamais de déluge, je ne détruirai plus personne. Ici, une alliance perpétuelle. Dieu s'avance beaucoup. Hein. Dieu est fidèle, une alliance perpétuelle. Pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Je suis ton Dieu et Dieu est mon peuple. C'est la formule typique de l'adoption. C'est la formule typique de l'alliance. Abraham vient d'adopter Ismaël en lui donnant un nom. Et voilà que Dieu dit, non, il y a quelque chose qui va plus loin que ça. Il s'établira à la face de tous ses frères, l'onagre d'homme qui est Ismaël. Et ici, je ferai de toi des peuples et des rois sortiront de toi. Donc ici, c'est vraiment une ouverture vers l'universel. C'est une réalisation de la promesse qui était faite en 12:3. En toi se béniront, c'est-à-dire en toi, de toi auront la vie toutes les familles de la terre. À toi. Et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession, à perpétuité, et je serai votre Dieu. Il n'y a pas plus clair comme formulation d'alliance. Tout y est. Et cette alliance, on voit bien, reprend, tout en la centrant sur Abraham, pas sur Ismaël, mais après Ismaël, tout reprend l'alliance avec Noé. Nouvelle identité. Alors, Dieu dit à Abraham, et maintenant c'est Abraham, donc on le considère maintenant comme multitude de peuples. Et toi, tu observeras mon alliance. Ici, vous voyez que l'alliance est bipartite. Jusque-là, c'était Dieu lui-même qui s'était engagé. Au chapitre 15, il disait son engagement gratuit. Et maintenant, il demande une contrepartie. Il demande à Abraham de prendre ses responsabilités. Et toi, tu observeras mon alliance. Toi et ta race après toi, de génération en génération. Je m'engage de génération en génération. Toi, engage-toi de génération pour observer mon alliance de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous. Voilà que Abraham devient un vous, un pluriel, puisqu'il est Abraham, père de multitude. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. On voit tout de suite... Attention à la circoncision, attention à l'alliance, on voit tout de suite que c'est un document de type sacerdotal, qui font attention justement à tout ce qui est rituel, à tout ce qui est fête, à tout ce qui est rituel, à tout ce qui est coutume d'Israël, propre à Israël. D'accord, ça vient, c'est la main du sacerdotal, et qui insiste très fort sur l'alliance, et ici donc sur la circoncision. On vous donne le sens de la circoncision. La circoncision est un... ici, dans la Bible de Jérusalem, on donne une note qui n'est pas mauvaise. La circoncision était primitivement un rite d'initiation au mariage et à la vie du clan. Rite probablement au départ rite d'hygiène, mais qui avait été pris comme rite d'initiation pour l'enfant. Il se situe encore dans certaines populations arabes vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans. En Israël, c'est 8 jours après la naissance. Alors il dit, donc une initiation au mariage et à la vie du clan. C'était le moment où on initiait l'enfant sur ses responsabilités de porteur de vie. Et tout ce qu'il y avait à faire. Initiation au mariage. Elle devient ici un signe, dit la note, qui rappellera à Dieu, comme l'arc-en-ciel, dit-il entre parenthèses, son alliance, et à l'homme, son appartenance au peuple choisi, et les obligations qui en découlent. Et c'est vrai que la circoncision a été un signe d'appartenance à Israël, tel que beaucoup y ont perdu la vie dans les camps d'extermination. Cependant, les lois ne font que deux allusions à cette prescription. Exode 12, la circoncision de Moïse, Lévitique 12, elle ne prit toute son importance qu'à partir de l'exil. Oui, de nouveau, on la met, et ça c'est vraiment le travail du sacerdotal, on la met tout à fait au départ. Saint Paul l'interprète comme le sceau de la justice de la foi. Le sceau de la vérité de la foi, c'est-à-dire de l'appartenance à un peuple qui est le peuple de Dieu. Et alors, on va parler à partir de Jérémie, surtout de la circoncision du cœur. C'est pas seulement quelque chose qui est dans la chair, c'est déjà beaucoup dans la chair, parce que c'est une appartenance au peuple qui est indélébile, qui est portée dans la chair. La circoncision. Mais la circoncision a un sens profond, parce que la circoncision est une reconnaissance que la vie ne vient pas de nous. Ce n'est pas moi qui choisis la vie. Décidément, si elle vient ici, la circoncision, parce que Abraham avait choisi un chemin, avec Sarai bien entendu, c'était Sarai qui avait eu l'initiative, un chemin de l'homme, un chemin humain. C'est moi qui détermine mon enfant. Et ici, il y a une réponse de Dieu qui dit, non, ton enfant, il est un don. Tu donnes ton sang, c'est-à-dire ta vie, par le membre qui donne la vie. Et tu reconnais par la même occasion que la vie que tu donnes ne vient pas de toi. La vie que tu donnes, tu l'as reçue. C'est ça le sens de la circoncision. J'appartiens au peuple de ceux qui croient que la vie est un don de Dieu. Et que la vie n'est pas une détermination de l'homme lui-même. Donc il y a un acte de foi extraordinaire ici dedans.
Jean Balmérique nous avait conseillé de lire par le aussi du sens de la circoncision, comme c'est justement l'organe qui est le pont entre l'homme et sa femme. La circoncision crée une distance de respect dans le couple, oui, pour éviter justement le côté fusionnel.
Le côté fusionnel, exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça.
C'est lui qui tient les deux membres.
Les deux membres.
À distance de respect l'un de l'autre.
À distance. À l'intérieur et à distance. L'un n'est pas l'autre. Et donc, c'est pour ça que le rite d'initiation, la circoncision, est très important. Parce que c'est une initiation au mariage. Tu n'as pas à ou bien te perdre dans l'autre ou à laisser l'autre se perdre en toi. C'est le rite c'est l'union de l'homme et de la femme, c'est le geste par lequel chacun devient soi. Chacun devient une seule chair, une unité face à l'autre. Donc on est à la fois unis et cependant on est chacun soi-même. On est différent. Et la circoncision, c'est le schéma de la découverte de cela. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis. La vie que tu donnes, ce n'est pas ta vie, c'est une vie que tu as reçue, c'est Dieu qui passe. Dieu est le seul qui donne la vie. Non, la vie n'est pas seulement quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. De génération en génération. Qu'il soit né dans la maison ou acheté à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race, donc un immigrant qui est installé dans ta maison comme dans le personnel de ta maison, ça de nouveau, c'est une détermination d'après l'exil, c'est une détermination qui vient du sacerdotal, on devra circoncire celui qui est né dans la maison. Et celui qui est acheté à prix d'argent.
Donc il devra circoncire Ismaël aussi.
Ah oui. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, vous voyez, c'est un signe d'appartenance finalement, d'appartenance au peuple qui a Dieu pour Dieu, qui a le Dieu unique pour Dieu. L'inconcis, l'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette fille-là, sera retranchée de sa parenté, il a violé mon alliance. Il se met en dehors du peuple de Dieu. Donc il se met en dehors de Dieu, il se met en dehors de l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, il croit que la vie est seulement une réalité humaine. Il la détache de sa foi en Dieu. Donc c'est assez important cet ordre de l'observance de l'alliance. Et ça va très loin. Ça prend l'homme dans tout son être. Et donc l'initiative de l'homme dans l'union conjugale est mesurée par cette présence de Dieu qui est la responsabilité de la vie qu'il transmet. C'est pas lui-même qu'il transmet, c'est la présence, la vie de Dieu qu'il transmet. Dieu dit à Abraham, ta femme, Sarah, ah, il y a un changement de nom, d'identité pour l'homme, il y a un changement d'identité pour la femme. Ta femme, Sarah, qui veut dire ma princesse, la princesse de moi. Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah, la princesse. Elle ne t'appartient plus. parce que tu es lié par une union qui donne la vie et une vie qui vient de Dieu, puisque ce n'est pas par le mode simplement humain. Donc c'est une réflexion sur le sens de la vie, tout ceci. Est-ce que la vie vient d'abord de l'homme, première solution, ou est-ce que la vie vient d'abord de Dieu? Ça nous mène à une réflexion et sur l'avortement, hein, et sur le sens de l'union conjugale. Est-ce qu'on peut s'unir, est-ce qu'on peut coucher avec n'importe qui, etc., etc. Et à partir d'un texte comme celui-ci, il y a toute une éducation qui se fait, hein, dans le judaïsme, réflexion sur le mariage. Ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai. Ce n'est plus ta princesse. Elle ne t'appartient pas. C'est-à-dire, c'est encore de nouveau contre le fusionnel, là, ici. Elle reste elle-même. Elle est princesse. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et même, je te donnerai d'elle un fils. Je le bénirai. Je la bénirai. Elle deviendra des peuples, des rois, elle deviendra des peuples, comme toi, tu deviendras des peuples, et des rois et des nations viendront d'elle. La bénédiction pour l'homme, la bénédiction pour la femme. Ce qui est encore dans notre liturgie chrétienne. Liturgie de mariage. Et le rapport avec Sarah est souvent fait, quand les gens ont encore une petite idée de ce qu'est Sarah, mais ils ne connaissent plus ce texte. Abraham tomba la face contre terre, de nouveau, au verset 3. Et ça c'est, vous voyez comment le texte est composé. Abraham tomba la face contre terre, il se mit à rire. Car il se disait en lui-même, un fils naîtrait-il à un homme de 100 ans? Et Sarah qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? Humainement impossible. On rit de ça. Hein? Les gens rient aussi de la virginité. Ils rient. C'est pas possible. Humainement, non. Un fils naîtrait-il à un homme de 100 ans et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu répond non. Mais ta femme, Sarah, il ne peut pas comprendre ça, Abraham. On comprend, si quelqu'un ne peut pas le comprendre. Humainement, ce n'est pas possible. Non, mais ta femme, Sarah, te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Yitzhak, il rit. Il rira. Le sourire de Dieu. Yitzhak. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Ce que j'établis avec toi, je le continuerai comme alliance perpétuelle. Pour être moi, son Dieu, et celui de sa race après lui. Circoncision, alliance, sens du mariage, de la présence de Dieu au cœur même de la relation homme-femme, ça c'est spécifique à Israël. Et c'est ça précisément qu'Israël va devoir transmettre. En faveur d'Ismaël aussi, hein, je ne laisse pas tomber hein, le petit Ismaël, qui a quand même pris de l'âge depuis, hein, 86 ans, quand la guerre de main, donc il a déjà 4 ans. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu. Tiens, je t'ai entendu. Yitzhak, tu arrives. On va l'appeler Hilary. Ismaël, tu as entendu. Je t'ai entendu, pardon. On va l'appeler, il a entendu. Je le bénis. Je le rendrai fécond. Vous voyez que Dieu n'abandonne personne. Je le rendrai fécond. Je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes. D'Isaac, il va y avoir 12 fils, hein. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui un grand peuple. Un grand peuple. Mais on ne dit pas que ce sera père de toutes les familles de la terre. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Lorsqu'il eut fini de parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Apparition, disparition. Ah, ça va bien. Et vous voyez, ça fait partie d'un même schéma. Apparition, promesse de l'alliance, ordre d'observer l'alliance, promesse à Sarai, et Dieu disparaît. Ça, c'est une caractéristique du Dieu dans les patriarches, c'est qu'il intervient juste ce qu'il faut et puis il s'en va. Il donne comme ça des petits coups de pouce. Dieu n'est pas continuellement présent. Mais il est présent à des moments clés de l'existence, pour dire le sens de ces moments clés de l'existence. Alors, nous allons terminer. Abraham prit son fils Ismaël, son fils. Vous voyez qu'il est bien adopté. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles, parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce. Ce jour même, comme Dieu le lui avait dit, il entre dans l'alliance, il observe l'alliance, il commence à la vivre. Mais donc, ce n'est pas seulement un geste rituel, mais ce geste rituel dit une appartenance au peuple qui a comme Dieu le Dieu unique. Donc c'est un engagement de foi, mais d'une foi qui prend toute la chair, toute la réalité matérielle, tout l'ensemble de la vie. Alliance. Et on comprend qu'un geste comme ceci est aussi bien un modèle, si on peut parler de modèle, aussi bien une réalité pour les gens mariés que pour les gens qui ne sont pas mariés et qui font une alliance avec Dieu. Abraham avait 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ah, oui, bien sûr. Et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Qui veut dire qu'il faut aussi qu'Abraham entre vraiment dans l'alliance. Et Ismaël, puisque c'est à 13 ans que l'on fait la circoncision chez les Arabes, ben on reprend le rite qui se fait à 13 ans, à chair de son peuple. Donc il avait 13 ans. Et donc quand Isaac va naître, il avait 14 ans. Vous allez voir que ça va faire des petits problèmes par après. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison, ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Fais attention, quand tu engages ton membre viril, tu engages toute ta vie vis-à-vis de Dieu. Acte de responsabilité étrange, énorme. Réfléchis à ce que tu fais. Tu engages Dieu parce que tu engages ton alliance avec Dieu. Et c'est à partir de là, je vous le disais tout à l'heure, que se fait l'initiation sexuelle des jeunes dans le judaïsme. C'est le texte de base. L'élection d'Abraham. Abraham est le père aussi bien des juifs, des musulmans que des chrétiens. Nous sommes tous fils d'Abraham. Parce que c'est la foi en un Dieu unique. Et donc il fait partie de cette alliance, ce qu'on appelle l'alliance en Abraham. L'alliance en Abraham, l'alliance en Moïse et l'alliance en David, ce sont encore des alliances différentes. Alors nous prenons tout ça sous le thème de l'alliance, un seul et même, mais il y a un processus, il y a une avancée. C'est-à-dire que quand on parle des trois peuples, des trois religions monothéistes, justement, on parle de l'alliance en Abraham, c'est-à-dire l'alliance dans la foi au même et unique Dieu.
Alors, l'alliance pour Isaac, c'est...
Ah, l'alliance d'Isaac, eh bien, il faudra la poursuivre pour voir quel est son avenir. Hein, l'alliance d'Ismaël va en demeurer là. Et puis c'est sur Isaac que va se porter hein, ce que nous appelons la bénédiction, le peuple élu. Oui, mais comme je vous l'ai dit, quand on parle d'élection d'Abraham, ou quand on parle d'élection du peuple élu, c'est-à-dire l'élection du peuple d'Israël, à ce moment-là ce sera Israël, nous pensons automatiquement élu, donc les autres ne le sont pas. Élu, donc les autres le sont. Voilà comment nous avons à découvrir les choses. Et finalement, c'est ce que nous dit. L'élu, c'est Abraham. L'élu, c'est Isaac. Mais Ismaël est aussi élu. Nous sommes chacun élus pour la vocation que nous avons à remplir. Nous sommes élus pour une charge. Et nous pensons toujours, hein, nous limitons, donc élection et l'autre est donc non élu. Non. L'autre est élu dans la mouvance du premier qui est élu.
C'est... Le texte dit bien cependant que je ferai mon alliance avec Isaac, et pas avec Isaac.
Bien sûr, bien sûr. Donc il y a une alliance particulière. Et selon le schéma de cette alliance particulière, nous allons avoir le modèle, si on veut, l'exemple Israël. L'exemple d'Israël est un autre exemple. Ce n'est pas le monothéisme, c'est le monothéisme de la Torah. Qui va passer à travers la Torah, c'est-à-dire à travers Moïse. Moïse est déjà une sorte de bifurcation de la promesse. La promesse qui est d'abord en Ismaël, en fait, hein, chronologiquement. Et puis ça va être en Isaac. Et puis d'Isaac, on va voir comment ça va prendre un tournant avec Jacob. Et puis Joseph, il y a encore des élections, il y a des élections tout le temps. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des élections à tous les moments. Parce que pour nous, élection dit exclusion. Et dans la Bible, élection dit voilà le chemin pour tous. Pas pour tous de manière indistincte, pour tout un chacun. Chacun a à découvrir là où il est élu. Autrement dit, chacun est élu pour une mission particulière. Et cette mission particulière a toujours ouverture universelle. Vous voyez que les bénédictions sont toujours en ouverture. La bénédiction en Ismaël est aussi ouverte que la bénédiction en Israël. En Isaac.
Mais comment ça se fait que les Hébreux ont mis tant de difficultés à l'universalisme pour finir?
Pourtant,
il y a 28 chapitres dans les Actes des Apôtres.
C'est dit dans tous les livres. L'universalité est dite dans tous les livres. Et elle commence ici.
Mais ils n'ont pas vécu.
C'est exactement la même difficulté que nous avons. Nous voulons être nous, au fond, et ça c'est le schéma de la jalousie, nous allons être nous à l'exclusion de l'autre. Caïn qui veut être soi, qui veut être reconnu, mais pour ça il doit exclure l'autre. C'est lui qui l'exclut. Pas Dieu, Dieu n'exclut pas, Dieu inclut.
Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Ce qui signifie, hein, je vous ai déjà dit ça, comment un rabbin traduisait ça, j'ai demandé justement à un rabbin pour dire, tiens, comment tu traduirais cette expression, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, il dit, tout un chacun est appelé, et toi. Beaucoup, hein, ça signifie, au fond, tous en potentialité. C'est ouvert à tous. Mais maintenant, et toi? Chacun apprend à prendre ses dispositions, prendre sa responsabilité. C'est ça. C'est-à-dire, disons encore autrement, le salut est ouvert et donné à tous. Jésus est mort pour tous. Pas pour un seul, pour tous. Avant, pendant, après. après toi. Comment est-ce que toi, tu reçois à travers ta vie ce salut? Comment le reçois-tu? C'est la question qui nous est posée. Et le comment, ben, comme ce, le comment d'Abraham, ça subit beaucoup de fluctuations. Hein. Il y a, je dirais, la générosité fondamentale, l'ouverture fondamentale, et il y a beaucoup d'éclipses. On n'est pas toujours ouvert, on n'est pas toujours accueillant, on est parfois partial, on veut avoir les choses pour soi. C'est la tentation. Ou bien, on est jaloux parce qu'on n'est pas élu, parce qu'on ne se croit pas élu, ou bien, parce que l'on est élu, on domine. On est supérieur à l'autre parce qu'on est élu. Difficulté. Vous la retrouvez absolument partout. Que ce soit en Israël, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'humanité, c'est la limite humaine. C'est le péché originel que nous recommençons sans cesse. C'est ça, le péché originel, hein, qui vient toujours après le pardon originel. Hein, le pardon originel est premier. Quand Dieu crée, ben, il décide d'ores et déjà de donner le pardon, sinon il ne créerait pas. Hein, il prend ses responsabilités. Le pardon originel est toujours premier. Et le péché originel, c'est parce que nous arrivons toujours un peu trop tard. Nous arrivons trop tard pour recevoir le pardon. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la voie du salut. Elle passe à travers notre péché d'origine. Vous pouvez remarquer absolument partout, il y a du péché originel. Partout. C'est-à-dire, à chaque recommencement, vous avez de nouveau un ver dans le fruit. Toujours, jusque dans l'Église primitive, vous avez Anani et Saphir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme n'est pas à la hauteur de sa création. Pas à la hauteur. Grâce à Dieu.
Est-ce que là, timide, encore une autre question intéressante?
Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Fin du chapitre 7e de l'Épître aux Romains. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps? Ce corps, c'est ce que nous partageons les uns avec les autres.